Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les jeunes Chinois sont nombreux à venir faire des études dans nos grandes villes universitaires. Imaginons un de ces étudiants, athée, comme la majorité de ses concitoyens, mais curieux de s'instruire sur un pays d'une culture très différente de la sienne. Nommons-le Wang. Pendant l'Avent, Wang a vu la ville où il étudie se draper de lumière. Tous les magasins sont ornés de guirlandes lumineuses, de sapins, de houx et autres décorations. Les seules inscriptions qu'il peut lire sont ces simples mots « Bonne fête ». Ces paroles lui semblent énigmatiques, car dans son pays, on fête aussi le Nouvel An, avec feux d'artifice et beaucoup de lumière. Mais on ne s'y prend pas un mois à l'avance, et cela ne dure pas plusieurs semaines après, une fois que le Nouvel An a commencé. Il se dit en lui-même, « Ce ne peut être le Nouvel An qui est la cause d'une fête de si grande importance. Quel est donc l'événement ou le personnage qui peut être à l'origine de ces lumineuses réjouissances ?» Il s'en ouvre à un camarade de l'université, catholique pratiquant. Celui-ci est tout heureux de l'instruire brièvement et de répondre aux questions que ce petit enseignement fait naître dans l'esprit de Wang, avide de savoir. Qui est cet enfant né il y a 2000 ans à Bethléem? Quel est le but de sa venue? Quelles sont les conséquences pour nous? Quel est cet enfant? Notre étudiant catholique n'a qu'à puiser dans les textes liturgiques pour expliquer à son ami chinois qui est celui que nous fêtons. Il lui cite les paroles de l'ange au berger de la messe de minuit. Je vous annonce une grande joie pour vous et pour tout le peuple. Le Sauveur vous est né, qui est le Christ Seigneur. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange, couché dans une crèche. Et il cite Isaïe, il donne les qualités de cet enfant. On lui donnera le nom admirable, conseiller, Dieu fort, Père du siècle futur, Prince de la paix. Ah, je comprends maintenant, dit Wang, ce que signifie cette crèche que j'ai vue dans une petite boutique bien décorée dans une petite rue un peu à l'écart. Cet enfant a dû être un grand homme pour qu'on fête sa naissance. Oui, lui explique son ami, il a été un grand homme, mais beaucoup plus que cela. Cet enfant que tu as vu représenté dans la crèche, c'est le Verbe de Dieu incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le créateur du genre humain qui a assumé une nature humaine avec un corps et une âme dans le sein de la Vierge Marie. Cet enfant a deux vies, unies d'une manière indissoluble et ineffable, la vie divine et la vie humaine. Il est vrai Dieu et vrai homme, en une seule personne, la personne du Fils de Dieu. C'est pour cela que, devenu adulte, il répondra aux Juifs qui l'interrogeront. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » C'est-à-dire qu'avant l'existence d'Abraham, il existait en tant que Verbe de Dieu et a toujours existé. Cet enfant, à la fois Dieu et homme, a une âme comme la nôtre, un corps semblable au nôtre, excepté le péché. Dieu, Créateur, péché, j'ai du mal à concevoir cela, dit Wang. Le monde ne provient-il pas du Big Bang initial? L'homme n'est-il pas l'achèvement de l'évolution? Vérité indubitable, enseignée dans le monde entier. Comment l'homme issu de l'évolution peut-il être pécheur? Il n'est pas responsable de ce que l'évolution a laissé d'imparfait en lui. Je ne comprends pas pourquoi les hommes ont besoin d'un sauveur. Ces interrogations sont l'occasion pour son ami de lui raconter la création par Dieu de nos premiers parents dans l'état de justice originelle. Ils étaient saints, en état de grâce, avec tout le cortège des dons préternaturels qui les exemptaient du travail pénible, de l'ignorance, des souffrances et de la mort. Ils devaient, ainsi que leurs descendants, entrer en douceur dans la gloire divine, achèvement de cette vie divine participée dont ils jouissaient déjà au paradis terrestre. Oui, Dieu nous a créés pour la vie éternelle, c'est-à-dire pour un bonheur inouï, sans fin. Bonheur qui glorifiera Dieu et nous rendra heureux pour toujours. Tous les hommes, et bien sûr y compris les Chinois, sont appelés à ce bonheur. Hélas, nos premiers parents ont péché. Séduits par Satan, ils ont cru qu'ils deviendraient semblables à Dieu en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont donc désobéi, perdant pour eux et pour leurs descendants l'amitié de Dieu et toutes ses conséquences terribles, l'ignorance, la malice, les souffrances, les divisions, les haines, les guerres, la mort. C'est ce que l'humanité expérimente depuis des milliers d'années. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Heureusement, un sauveur fut promis à nos premiers parents, afin qu'ils mettent leur espérance en lui. En effet, sans ce sauveur, les hommes sont impuissants à se donner cette participation divine. Ils cherchent en vain le bonheur, la paix. Comme autrefois, actuellement, ils sont séduits par l'esprit des Lumières et s'efforcent de construire un monde sans Dieu, basé sur les droits de l'homme, dont le bonheur consiste à jouir des biens terrestres. C'est bien bas. Cet idéal ne leur échappe-t-il pas sans cesse? Les guerres s'amplifient, les hommes oppriment les hommes au nom de ces beaux principes. Oui, c'est vrai, dit Wang, et j'en sais quelque chose. De proches amis ont vu un fonctionnaire de l'État noyer sous leurs yeux leur petit frère âgé de quelques mois. Pourquoi? Parce que les parents avaient dépassé le nombre d'enfants permis par la loi. Mais revenons à l'enfant de la crèche. Cet enfant, c'est le sauveur promis dès l'origine du monde, attendu depuis plus de 4000 ans par l'humanité souffrante. Quel est le but de sa venue? Le prophète Isaïe nous dit que cet enfant, qui est à la fois Dieu et homme, est né pour nous. Il nous est donné. Il nous appartient. Qu'est-ce que cela signifie? Il a pris la nature humaine pour pouvoir nous rendre participants de la vie divine. Il se fait homme pour faire de nous des dieux. Et saint Jean, qui a vécu dans son intimité pendant 3 ans, nous dit que Jésus-Christ est le Verbe fait chair. Il a vu sa gloire sur le mont Tabor, gloire digne du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Il est venu dans le monde et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Wang réfléchit. C'est merveilleux, dit-il. Mais comment le recevoir? Comment recevoir cette vie divine qu'il veut nous communiquer? Par le baptême, répond son ami. Le Sauveur a fait un commandement à ses apôtres. Allez enseigner toutes les nations, y compris les Chinois, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. La vie est donc quelque chose de sérieux, dont le dénouement est soit le bonheur sans fin en tant que fils de Dieu, soit la privation de ce bonheur qui est comme une mort éternelle, avec toutes les souffrances qui l'accompagnent. Et nous en avons quelques échantillons dans les souffrances les plus cruelles que les hommes ont souffert sur cette terre depuis des millénaires. Par le baptême, nous sommes régénérés à une vie nouvelle, qui se surajoute à notre vie naturelle, en la dépassant, en la couronnant. Nous devenons par cette vie nouvelle enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ. Mais cette vie divine est cachée dans le baptisé, sous les dehors grossiers de l'existence ordinaire. Elle ne demande qu'à grandir et à s'épanouir, si nous n'y mettons pas d'obstacle. Cette vie divine doit resplendir dans toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, rendre notre vie lumineuse. Saint Paul nous a décrit les effets de cette vie surnaturelle dans l'épître de la messe de minuit. La grâce de Dieu, notre Sauveur, est apparue à tous les hommes. Elle nous apprend à répudier toute impiété, tous les désirs de ce monde, afin que nous vivions avec sobriété, justice et piété pendant que nous sommes sur cette terre, attendant l'objet de notre bienheureuse espérance, l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je comprends, dit Wang, qu'on ne peut pas rester indifférent devant cet enfant de la crèche, et je m'étonne qu'il y ait si peu de crèches dans votre pays. Oui, chers fidèles, on ne peut rester indifférent devant cet enfant né pour nous à Bethléem, et que le cycle liturgique ramène chaque année à notre mémoire. Alors saisissons cette grâce de Noël, demandant au Dieu Tout-Puissant, comme ça nous est indiqué dans la collecte et la post-communion de la messe, demandons par l'intercession de la Vierge Immaculée que la nouvelle naissance de son Fils unique en la chair nous délivre du péché qui est le seul mal, sous le joug duquel notre ancienne servitude nous tient esclaves. Et que de même que le Sauveur du monde, né aujourd'hui, est pour nous l'auteur de notre divine naissance, il nous donne aussi un jour l'immortalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.